Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
19h02 sur RMC, on est là, on est bien dans Roten sans flamme. C'est la deuxième heure de Roten sans flamme. Et là, on va se projeter, se lancer sur la Ligue des Champions, sur le match olympique de Marseille ce soir contre Liverpool à 21h. En intégralité, comme tous les grands matchs sur RMC, bien sûr. Et là, on se projette, on se lance sur ce match avec la compo qui va pas tarder à arriver. On est avec Benoît Boutron, avec Christophe Dugarry, avec Benoît Costil. On a passé une excellente première heure. On remercie Mathieu Valbuena et on félicite encore de sa carrière, même si elle n'est pas finie.
Doublé contre Ben Costil, incroyable. Magnifique.
Ah bah, il joue encore, c'est beau. Hein.
Il joue encore, et la passion du foot, match, bien sûr.
Ah ouais. Ah, il avance plus là.
On aura un grand quiz à 19h45, tous contre Roten, avec un magnifique cadeau. Un an de café saveur noisette, le temps des cerises. C'est une maison de café qui vous propose son irrésistible café.
Un porçu encore le.
Adapté à votre mode de préparation. Si tu veux, c'est du café en grain ou moulu, une capsule ou une dosette. Comme tu veux, c'est livré directement chez toi, Jérôme. Pour remporter un an de café saveur noisette, le temps des cerises, vous appelez le 3216, touche 4, vous envoyez quiz par SMS au 732-16. On parlera de Monaco à 19h30 dans la VAR de Roten sans flamme, la crise profonde à l'AS Monaco. Est-ce que Thiago Scuro doit s'en aller? On sera avec Maxime Tilliette pour les toutes dernières infos au lendemain de cette défaite 6-1 à Madrid. Mais tout de suite, on lance donc ce choc OM Liverpool parce que Duga y croit d'une dur comme fer.
Bien sûr que j'ai envie de m'enflammer. Ils sont en train de vivre le meilleur.
Paixão.
Enfin, De Zerbi est inspiré.
Paixão qui va frapper. Oh, Paixão.
J'ai trouvé une identité de jeu très forte sur ce match-là.
Et Sanglibud. Et 3-0 pour moi.
Quand les bons moments, ils sont là. C'est magnifique. C'est exceptionnel.
Et le but pour Pierre-Emerick Aubameyang. 4-0 pour l'OM.
Marseille a dominé de la tête et des épaules, techniquement, physiquement. Tout était bien en place. J'ai trouvé des Marseillais très bons.
Aubameyang, allez,
De Zerbi a été excellent. Je suis ravi de le dire.
Premier poteau, Aubameyang, but.
J'ai enfin trouvé un OM à la hauteur de son ambition, comme j'ai pu le retrouver, que ce soit en première mi-temps face au Sporting, que ce soit face à l'Ajax.
Mason Greenwood.
Pour la soirée, c'est sur RMC que ça se passe.
Et tout cela est réalisé sans trucage. Vous avez bien entendu les propos de Christophe Dugarry. Cette affiche de rêve au Vélodrome.
Et tu vois,
ce soir.
Tu viens de l'OM.
Exactement.
Moi,
j'en doute pas. Marseille reçoit Liverpool, champion d'Angleterre en titre. Marseille qui assurerait sa qualification pour les barrages en cas de victoire. Marseille qui aborde ce grand rendez-vous avec confiance, des prestations abouties sur les derniers matchs. Et en face, un Liverpool qui est dur à cerner. Quatrième de Première Ligue, 4 nuls consécutifs. 11e de la phase de Ligue des Champions. Une doublette magique avec nous ce soir pour en parler. Florent Germain, notre correspondant à Marseille. Salut Flo.
Salut Benoît. Salut les amis, salut à tous.
Et Julien Laurence à tes côtés, drôle de dame anglaise. Salut Julien.
Il est plus élégant que moi. J'avoue, il est plus élégant que moi.
Salut Benoît, salut à tous.
Mais toi, qu'il est plus élégant. Il est leader. Il est leader de Ligue des Champions, il est leader de Première Ligue.
Avec Arsenal.
Non, mais il écrase tout le monde avec Arsenal. Non, mais c'est fou.
Il nous prête des joueurs.
Et voilà, en plus, on en parle.
Je vous envoie du talent parce que Dugarry est jamais content. Donc j'envoie du talent un petit peu.
Voilà, justement. On en parlera dans un instant.
Par contre, t'as rangé le maillot du PSG, Julien, ce soir quand même.
Oui, là, je fais profil bas.
Ah oui, là, c'est pas assumé le maillot Opel. Ah,
ouais, mais je porte bonheur, je porte bonheur. J'étais là pour Newcastle.
C'est vrai. Bon, Flo, est-ce qu'on aura un OM ambitieux face à Liverpool ce soir?
Oui, ambitieux, je pense, déterminé, enthousiaste. C'était les termes de Roberto De Zerbi hier, parce qu'il veut un mix, ça, il le répète souvent, de confiance en soi, mais aussi d'humilité, parce que c'est quand même un grand club qui se déplace, 6 Ligues des Champions, un maillot mythique, celui des Reds de Liverpool. Donc, cette confiance, il l'attire de certains gros matchs où l'OM, c'est vrai, a été au rendez-vous. Il n'y a pas toujours eu des victoires, mais contre le Real, Marseille avait quand même sorti un beau match à Bernabeu. C'est pas le cas de toutes les équipes françaises. Il y a eu également le gros match contre le PSG avec le trophée des champions perdu, la victoire ici au Vélodrome. Bon, on peut rajouter Newcastle qui avait été un match d'une haute intensité, même si Newcastle c'est pas l'ogre européen que citait Roberto De Zerbi, mais malgré tout il a des références, il veut être à la hauteur des grands, il dit que l'OM est capable de battre n'importe quelle équipe, même s'il n'est pas sûr à 100%, il peut pas l'affirmer que l'OM va battre Liverpool, parce que ça reste un gros match à disputer dans une grande soirée européenne. C'était les mots hier écoutés de Pierre-Emile Højbjerg.
de club extraordinaire, de la passion, de l'histoire, mais aussi dans un stade et dans un cadre extraordinaire. Et je crois que tout le monde qui viendra avec un sourire. Et j'espère aussi que tout le monde avec le maillot et le sang marseillais partira aussi avec un sourire.
Voilà, ils pensent aux 67 000 supporters, un match à guichet fermé. Le club nous dit qu'ils auraient pu remplir deux stades Vélodrome, tellement les demandes étaient importantes. Parcage rempli du côté des Anglais, 3300 fans de Liverpool et des tifos qu'on va pas dévoiler. Pendant la conf de Liverpool hier, j'ai assisté à quelques répétitions pour l'animation visuelle en virage nord notamment, où ce sera un tifo 3D assez spectaculaire. Et puis tout le virage sud sera recouvert également d'un tifo. Les supporters préparent ça depuis au moins 15 jours dans le parc Chano qui est juste à côté. Donc l'avant-match sera aussi à voir et sera vibrant.
Est-ce que l'OM est prêt pour l'exploit à 32-16 pour participer avec nous? Jérôme, est-ce que tu y crois pour l'Olympique de Marseille?
Écoute, tous les feux sont ouverts hein, pour l'Olympique de Marseille. Et quasiment pas de blessés.
Personne quand même. Un forfait de dernière minute, ça c'est un coup dur.
Ouais. C'est pour ça que j'ai dit quasiment pas de blessés. C'est sûr que c'est un coup dur par rapport à ce qu'il a apporté depuis le début et dans la fameuse équipe type que moi je réclamais sur ce genre de match. Maintenant, aujourd'hui, quand tu vois la dynamique de l'Olympique de Marseille, la façon de jouer, j'ai trouvé, et on l'a dit, hein, le dernier match contre Angers était très solide, très très solide, surtout sur l'ensemble, même si quand tu mènes par 4-1 à la mi-temps, t'as un petit relâchement en deuxième mi-temps, mais malgré tout, l'entame était bonne, l'état d'esprit, la façon de essayer de marcher sur son adversaire. Moi, c'est comme ça que j'attends l'Olympique de Marseille, comme ça a été le cas contre le Paris Saint-Germain au Trophée des Champions, un Marseille conquérant qui va de l'avant, qui presse, qui prend des risques, et puis après offensivement, qui fait preuve de talent, de créativité. Alors c'est souvent Greenwood en effet qui est le détonateur comme ça. On attend que les autres se mettent un petit peu au diapason, que ça soit Gouiri, que ça soit Traoré ou Pachao si c'est lui qui joue. J'ai plus de doutes sur Pachao, vous le savez, mais Traoré, j'aime ce qu'il fait depuis qu'il est là. Écoute, et puis un milieu de terrain qui est conquérant et qui est solide et qui rassure aussi la défense. Donc si c'est le cas, l'Olympique de Marseille a toutes les chances, si tu veux, de faire mal, d'essayer de bousculer. Ils vont bousculer cette équipe de Liverpool. Après, c'est pas parce qu'ils font un match. Moi, j'espère les voir comme ça, avec cette générosité-là et cet état d'esprit-là. Derrière, Liverpool est totalement capable, même avec ces arguments-là et ces ingrédients-là du côté marseillais, de venir gagner au Stade Vélodrome. Liverpool, ça reste une grande équipe, mais ils sont en difficulté avec des grands joueurs. Donc, c'est un gros match.
Tu veux voir le même OM que face au PSG, quoi, c'est ça?
J'espère voir le même OM que le match aller contre le Paris Saint-Germain au Stade Vélodrome. La même entame de match et le match au Trophée des Champions. C'est des matchs de très haut niveau. Et pas un OM comme ça a été le cas sur la plupart des matchs de Ligue des Champions à domicile. Ouais.
Voilà, et pas un OM timoré, parce qu'on a trop vu ça en début de rencontre souvent. Et si l'OM se lâche pas ce soir quelque part, quand vont-ils se lâcher? Parce on sait qu'en cas de victoire ils sont qualifiés, mais qu'en cas de contre-performance rien n'est terminé, qu'ils peuvent rattraper énorme. Le coup à Bruges la semaine prochaine. Donc évidemment la pression, la passion, tout sera au rendez-vous. Mais je veux dire, Marseille doit jouer avec ambition.
Tu dois emballer le match. Tu vois, quand tu nous parles des supporters, tout ce qu'ils ont mis pour préparer cette rencontre. On sait que le spectacle, il est aussi dans les tribunes et ils seront au rendez-vous. Bon. Tu dois les emmener, tu dois te servir de ça. Si tu ne te sers pas du Stade Vélodrome aujourd'hui, au moins sur l'entame de match, mais tu vas le faire quand?
Dugas.
C'est clair.
Est-ce que l'OM est prêt pour le match?
Je pense que tous les voyants sont ouverts. Effectivement, la confiance est à son maximum. Voilà, l'OM sort de trois matchs de grande qualité. Alors on va me dire, c'est Angers, c'est Bayeux, oui, ok, mais faut quand même, c'était quand même de grande qualité malgré tout ce qui, la copie rendue était très bonne. Face à Paris, c'était très très bon aussi. Voilà, j'ai l'impression que tout le monde a pris sa dose de confiance. Un seul absent. Voilà, je pense que l'OM a pratiquement retrouvé tous ses joueurs et pratiquement son équipe type à un joueur près. Donc j'ose espérer que ça n'entamera pas trop l'équipe et son potentiel. Mais moi, sincèrement, j'attends beaucoup de ce match. J'attends beaucoup de ce match, j'y crois. Je suis très optimiste. Je pense que plus que jamais, c'est le match où les mecs doivent se faire plaisir, quoi. Voilà, moi, si j'étais coach de cette équipe, je dis, les gars, prenez plaisir. jouez, tentez des choses. Voilà, n'ayez pas peur, régalez-vous. Voilà, comme l'a dit Flo, il y a pas grand chose à perdre en définitive. Même un nul, ça serait une belle performance. T'as aucune obligation de gagner. Sincèrement, c'est le meilleur moment pour affronter cette équipe de Liverpool qui est pas toujours en grande forme. Il faut aller les bousculer, il faut aller les chercher. L'OM est capable d'être très bon face aux meilleures équipes. Donc voilà, moi je suis optimiste ce soir et j'ai vraiment envie d'y croire. J'attends beaucoup de ce match.
Ben Costil.
Ah oui, ben clairement. Après, un Liverpool pas très bien, mais qui perd pas quand même depuis 12 matchs. Hein. Faut le signaler quand même. Mais c'est vrai qu'on a envie de s'emballer ce soir sur une affiche comme ça, que le Vélodrome soit chaud bouillant. Après, bon, même s'ils ont fait des grosses performances dans le contenu ces derniers temps, et je trouve qu'il leur manque un deuxième absent. Ils ont un deuxième absent, qui est Naïef Aguerd, qui pour moi est leur meilleur défenseur.
Ah oui.
Donc ça compte aussi. En plus, d'Emerson qui est l'absence surprise entre guillemets de dernière minute. Mais en tout cas, il y a tout pour y croire pour Marseille et de faire le gros match encore une fois chez eux après Paris. Mais voilà, il y a peut-être un peu de frustration aussi par rapport au trophée des champions. Donc qu'ils aillent faire le match qu'ils méritent de faire et qu'ils nous fassent vivre un grand match.
Le sujet, c'est quelle organisation? Quelle organisation?
C'est ça.
Comment Flo, est-ce qu'on a des infos?
Quelle est l'équipe type? Quelle est l'organisation type? C'est ça le vrai sujet.
Bon, l'absence d'Emerson, elle a forcément contrarié les plans parce que lui, il était titulaire. Il s'est blessé à la cuisse, on le rappelle, hier à l'entraînement. Donc, hier soir, voilà, l'ambiance était un petit peu morose par rapport à cela. Donc, la tendance, c'est que Timothy Weah glisse à gauche. On verra si ça se confirme. Bon. Avec du coup. Parce que Murillo devrait être titularisé du coup. Hein, c'est quand même la tendance à droite. Weah pour jouer ce rôle hybride où parfois il est offensif et parfois il vient s'ajouter à une défense à 4 pour cette ligne de 5. Donc avec Medina, Balerdi, Pavard. En fait, Weah, lui, c'est le facteur X. C'est-à-dire que toutes les conférences de presse, quasiment avec Roberto Zerbi, on se taquine un peu sur le système parce que lui, il dit qu'il n'a joué qu'une seule fois cette saison à 5. Ce que j'accepte pas comme remarque de Zerbi parce qu'en fait, on a tous vu qu'il y a eu plein de matchs où ils étaient sur une ligne de 5. Donc alors peut-être qu'on comprend plus rien au football ou que je suis dépassé, je sais pas. Mais en tout cas, lui estime que Weah n'est pas un défenseur.
Alors, attention à toi.
Ouais, je sais. Mais bon, donc ce sera tantôt à 4, tantôt à 5. Alors. Et puis après, pour le reste, Højbjerg, a priori, compte Dogbia, on verra si ça se confirme. Et puis les hommes en forme devant, notamment.
Tu vois pas un Medina décalé côté gauche, donc c'est pas la tendance. On verra ce que ça donne.
Non, mais si tu as la compo que je te donne avec Weah un cran plus haut, Medina sera, quand Weah est offensif, sera sur le côté gauche. Donc en fait, oui, Medina va se décaler probablement là où était Emerson de temps en temps.
Julien Laurence, ce match et l'importance de ce match pour Liverpool, qui est moyen depuis plusieurs semaines. Il y a pas mal de pression sur Arne Slot, ça ne perd plus, mais ça ne gagne pas beaucoup non plus. Est-ce qu'il est sous pression, le coach, et est-ce que c'est une rencontre cruciale pour les Reds?
Alors crucial, non, parce que un peu comme l'OM, ils jouent Karabakh à domicile le prochain match et ils ont 12 points, c'est ça. Ils devraient gagner, ça devrait passer quand même. Mais dans la forme actuelle, on va dire, dans ce qu'ils ont pu faire depuis ces dernières semaines, même si ça va un petit peu mieux, Ben le disait tout à l'heure, 12 matchs sans défaite, même s'il y a les 4 nuls de suite qui font un petit peu tâche, parce que quand tu fais match nul contre Burnley à domicile, même si t'as dominé, même si t'as eu beaucoup d'occasions et que t'as juste été inefficace devant le but, tu peux pas te permettre de perdre 2 points
parce que c'est
Burnley,
un jeu de merde.
Oui, ça doit être pour ça, exactement. Ça doit être pour ça. Même si Slot, je pense, n'utiliserait jamais ce mot-là. Donc c'est important, plus je pense, pas forcément pour la qualification et le classement en lui-même, mais plus pour leur forme, aller chercher encore cette constance et cette consistance qu'ils ont plus finalement. C'est très inégal dans ce qu'ils produisent, ça peut être très bien parfois, ils peuvent assez bien défendre contre des grosses équipes, on l'a vu Arsenal et le 0-0 il y a une dizaine de jours, et puis parfois c'est fragile, c'est déséquilibré défensivement, ils sont un peu à la rue, c'est mal aligné. Encore une fois, il n'y a pas Konaté ce soir, donc c'est Van Dijk et Joe Gomez qui seront les deux défenseurs centraux, sur les côtés des latéraux, si c'est Frimpong et Kerkez, c'est très très offensif, bien trop offensif pour un match comme ce soir par exemple. Donc il pourrait mettre Robertson à gauche mais qui a plus les jambes d'avant. Donc il y a plein de
il y aura ça là ou pas, Julien, à ton avis?
C'est la grande question. On sait pas, il est de retour dans le groupe, ça oui.
Ouais.
Ça fait quand même 6 semaines qu'il a pas joué. Moi, j'ai du mal à croire qu'il serait titulaire pour un match pareil ce soir alors que ça fait 5 semaines qu'il est pas là et que l'équipe quand même, faut le reconnaître, tourne mieux offensivement, on va dire, avec les joueurs que Slot met. Il y a plus de contrôle quand il n'est pas là que quand il est là. Donc, à voir. Après, tu le fais rentrer à l'heure de jeu, c'est bien aussi.
En tout cas, Benoît, juste un mot, la conf de presse d'hier de Liverpool, une nouvelle fois, m'a confirmé ce que je répète, c'est que nous, les journalistes français, on est des enfants de cœur, parce que des fois, il y a des questions qui vont droit au but. Bon, notamment, un journaliste qui a demandé quand même à Arne Slot s'il avait eu que Xabi Alonso au téléphone pour prendre quelques conseils éventuellement sur ses joueurs. La réponse a été, elle est un peu déconcertante, votre question là. Mais bon, ça m'a fait sourire. Ça m'a fait sourire. Et ça prouve bien ce que dit Julien, c'est qu'il y a quand même un petit parfum de pression et d'équipe et de club un peu déstabilisé par les résultats.
Alors, ça tombe bien que vous soyez là tous les deux, parce qu'on va parler un peu de l'actualité mercato de l'OM. Il y a deux recrues à Marseille et Julien peut nous aider pour les deux, parce que l'une d'entre elles est une pépite d'Arsenal et l'autre, c'est le frère jumeau de Timber qui joue à Arsenal. Donc, Flo, est-ce que tu peux déjà nous donner les infos mercato qui concernent l'OM, s'il te plaît?
Ouais, Nwaneri, c'est pas encore officiel, mais on se dirige vers un prêt sans option d'achat. Donc, il y aura un petit billet dont le montant n'est pas encore très clair, mais ce sera autour de 2 millions d'euros plus des bonus. J'ai entendu Julien en parler.
Nwaneri, c'est un prêt sec. Hein. Prêté sec, voilà. Prêt sec et
sec
pas d'option d'achat.
Mois. Voilà. Pour que lui ait du temps de jeu et que l'OM en bénéficie sur cette fin de saison. Alors ça fait un peu parler les supporters de.
Ah bah c'est ça, c'est une opération financière tout de même pour l'OM.
500 000 euros par mois, c'est beaucoup quand même.
Oui, bah ça reste effectivement un petit investissement. Et concernant Timber, qui est arrivé aujourd'hui à Marseille, à Marignane, là, en tout début d'après-midi, c'est pour le coup un contrat de 4 ans et demi, donc jusqu'en juin 2030. L'OM voulait identifier très clairement un manque de volume de jeu. Il voulait un profil un peu box-to-box, comme on dit. Donc c'est vrai que Timber semblait faire l'affaire. On est sur un transfert estimé à 4 millions d'euros, 3,5 plus des bonus qui peuvent aller à 4,5 millions. Il était en fin de contrat en juin, donc évidemment il y avait beaucoup de concurrence pour ce joueur. L'OM est très satisfait de l'avoir convaincu de venir à Marseille, et Arne Slot qui l'a connu en a dit que du bien hier, donc c'est un joueur qui a priori devrait faire du bien à l'entrejeu marseillais.
Jus, t'es convaincu toi par Nwaneri, hein. Tu nous dis alerte, très bon joueur.
Moi, les deux déjà, je pense que c'est deux très jolis coups que l'OM a fait. Nwaneri, c'est sincèrement, c'est un petit génie, il n'y a rien d'autre,
et pourquoi il
y a rien
d'autre
à dire dessus. Parce que
il y a du monde, il y a beaucoup.
Oui, il jouait parce que tu avais pas Madueke par exemple qui est arrivé. Le recrutement de cet été-là, là.
Donc Madueke, si lui est un génie, Madueke c'est quoi alors?
Madueke c'est un international anglais déjà chez les A. Nwaneri c'est que chez les jeunes. C'est pas la même chose. Mais là où je suis d'accord avec toi, où je te rejoins, c'est que je pense qu'il aurait pu jouer plus, qu'il aurait peut-être même dû jouer plus. Et que le prêt est évident du côté d'Arsenal, du côté du joueur aussi, parce qu'il a besoin de jouer, surtout à son âge. Et pour l'OM, sincèrement, à la recherche d'un numéro 10 qui, effectivement, pour l'instant, les joueurs à disposition de Deserbi ne le satisfont pas pour ce qu'ils cherchent, c'est parfait. Sincèrement, c'est un pied gauche magnifique, il est élégant, il voit le jeu très bien.
C'est vrai, mais t'as raison. Moi, l'année dernière, je l'ai vu plusieurs fois jouer. Il a quelque chose dans le pied, ce gamin, c'est sûr. Après, dans le contexte, moi, c'est plus la formule, le prêt comme ça, payant, mais sans option d'achat, avec t'es obligé de le faire jouer quand même. T'as quand même.
Cette histoire qu'ils sont obligés de lui faire jouer un certain nombre de matchs.
Sinon, il y a une pénalité.
C'est vrai, ça, Flo, on a les infos.
Ouais, faut qu'on.
Ouais, c'est ça, ce qu'on a dit
oui,
aussi.
Oui, effectivement. L'OM s'engage. Tu sais, pour Hendrick, à Lyon, il y a un peu aussi cette carotte de payer un petit peu moins si l'OL ne le fait pas jouer. Donc, c'est une tendance qui se fait dans certains clubs, même si on n'a pas encore les détails du nombre de matchs. Mais effectivement, il y a cette carotte de le faire jouer pour justement diminuer un petit peu le transfert et se presser.
Juste, Flo,
sans option d'achat, on le rappelle.
Est-ce que le dossier Abdelli est décorrélé de ces deux dossiers-là, ou est-ce que l'arrivée de Timber ça bloque un peu le dossier Abdelli?
Non, surtout l'arrivée de Nwaneri, non, pour
Timber aussi, mais bon, quelque part Abdelli, en gros l'OM le veut toujours, lui il a toujours cette envie de venir à l'Olympique de Marseille. Là par contre, où ça peut se décanter, c'est uniquement s'il y a des départs. C'est pour ça que Angel Gomez a été très clairement invité à trouver un autre club. Bon, on le savait, on l'avait dit depuis la fin décembre déjà, que l'OM avait quelque part acté cet échec. Moi je peux vous dire que Mato Riley, il est descendu très clairement dans la hiérarchie depuis quelques semaines, et que si l'OM lui trouve une porte de sortie, ils peuvent éventuellement envisager de casser le prêt. Alors on sera toujours sur cette critique de dire que l'OM au bout de 6 mois remet tout en cause et que
non, mais c'est bien de reconnaître ses erreurs tout de suite.
Mais voilà, que c'est quelque chose qui est très totalement assumé. En tout cas, Mehdi Benatia l'a souvent répété à RMC ou ailleurs, de dire nous, si au bout de 6 mois on se rend compte que le joueur fait pas l'affaire en termes de qualité ou
d'esprit,
de caisse, ouais, d'état d'esprit, mais aussi de capacité à encaisser le contexte, l'OM, etc. S'ils voient que c'est voué à l'échec, bon bah ils prennent une décision. Alors Matuidi, c'est pas encore le cas, même si je répète, il fait un petit peu moins l'unanimité qu'il ne le faisait en tout début de saison.
Alors, merci Flo.
Donc, s'il y a des départs, Abdelli, je pense que ça peut se réveiller à nouveau.
Merci Julien. Merci, juste profitons des 2-3 minutes qui nous restent pour parler de l'OM, pour une sorte de mise au point dans Rotten sans flamme, parce que vous le savez, parfois le board marseillais est un peu énervé par les critiques qui sont émises dans cette émission Rotten sans flamme. Tous les deux, vous avez été interpellés, Jérôme.
Pas de Zerbi, il a dit qu'il n'écoutait pas.
Ah bah oui, voilà. Jérôme et Dugas, vous avez été attaqué par l'ancien joueur italien Antonio Cassano, donc ce week-end.
Moi, je l'ai invité.
Salut, on l'embrasse. Il est le bienvenu. Maurice, participer à Rotten sans flamme quand il veut. Mais la petite histoire, c'est donc que Roberto De Zerbi a participé à une émission Twitch et sur les réseaux sociaux avec Cassano, qui s'appelle Viva El Football, où il a parlé justement des critiques françaises à son encontre, notamment les critiques que tu peux émettre, toi, Christophe. Et je vais juste donner la déclaration donc de Roberto De Zerbi à ton propos. Les critiques de Dugarry, je me suis entraîné avec lui à l'AC Milan plusieurs fois, donc je ne sais pas.
Ah, en plus,
en fait, ça m'agace. Quand il commence à parler avec présomption, il n'y a pas qu'une seule façon de jouer au football. Dugas, tu voulais juste prendre quelques secondes pour lui répondre et me donner le fond de ta pensée, quoi.
Écoute, lorsqu'on parle football, comme il le dit, on parle tous avec présomption. Je n'ai jamais prétendu détenir la vérité et je respecte ceux qui pensent différemment de moi. Je dis juste les choses avec conviction et passion. C'est pour ça qu'elles peuvent parfois paraître un peu péremptoires. Personne ne détient la vérité absolue et les preuves absolues de ce qu'il avance. Aujourd'hui, il me reproche de parler avec présomption parce qu'il ne retient que ce que je dis de mal sur lui. Mais lorsque je dis du bien, parce que j'en dis aussi, il faut quand même le reconnaître, je parle aussi avec présomption et sans preuve absolue. Mais à ce moment-là, il me le reproche pas comme par hasard. Donc, après, même si je le trouve parfois agaçant en conférence de presse, je n'ai absolument rien contre lui personnellement. Voilà. Mais comme je l'ai dit hier, je ne me trouve pas dur avec lui. Je me trouve exigeant. Et on est exigeant qu'avec ceux que l'on attend et on espère au plus haut niveau. C'est tout. Il a été présenté et espéré comme un futur top mondial. Quand il est arrivé au club, c'est un honneur qui lui a été fait par tous les Marseillais. Faut qu'il s'en réjouisse et qu'il le prouve. En ce qui me concerne, je te cache pas mon poulet, après 18 mois, il ne m'a qu'en toute petite partie convaincu, mais il lui reste encore au moins 6 mois et je lui souhaite du fond du cœur et sincèrement d'y arriver, autant pour lui que pour le peuple marseillais. Même si parfois certains Marseillais ont pu penser que je ne les aimais pas alors que j'ai porté leur maillot, ils se trompent. Je ne me suis jamais satisfait ni réjoui des échecs de l'Olympique de Marseille. Voilà, je leur souhaite le meilleur. Comme pour le coach, je ne suis pas dur avec l'OM, je suis exigeant, tout comme ils l'ont été pendant 2 ans avec moi lorsque j'ai porté le maillot de l'OM. Et je pense que le mot exigence a toujours été associé à l'OM et à ses supporters et doit l'être encore et encore. Et c'est vrai que moi j'ai eu la chance de porter ce maillot parce que ça a été une chance. On m'a toujours parlé d'exigence quand j'étais là-bas et je continue à juger cette équipe et cet entraîneur avec exigence. C'est tout. Après on peut me le reprocher mais je ne tiens pas la vérité. Donc qui se rassure, j'ai rien contre lui personnellement, notre ami de Zerbi.
Vous êtes tous les deux des passionnés.
Et Flo, continuons le travail de SAP. On veut organiser
dire que tout ça serait de l'oreille en un repas.
Mais c'est sûr.
Une émission. Un repas passion, une émission derrière. Ah et c'est
oui, bien sûr.
Choisissez votre restaurant, on se charge.
Et la pizza de Meco.
La cassa. La cassa de Meco.
Alors vous n'allez pas y aller avec l'émission Rotten sans flamme, je vous le dis.
Attends, cassa de Meco. Pourquoi pas? Attends.
Alors, sa pizza dégueulasse, là, j'y vais pas.
Qu'est-ce que tu dis?
Pizza
en choix. Ça a déjà fait le plein aujourd'hui, là.
En choix et mental grillé.
Pizza avec de l'emmental, Flo, mais c'est pas possible.
Merci Flo d'être venu, merci à Julien Laurence, merci les gars.
Bon match,
si on revient dès que t'as la compo marseillaise, on t'attend.
Tout à l'heure pour la compo, on veut la compo.
Évidemment. Et dans un instant, on parle de la crise profonde que traverse l'AS Monaco, giflé 6-1 hier sur la pelouse du Real Madrid.
Mon Dieu.
Est-ce que Thiago Scuro doit s'en aller? 32-16 pour participer avec nous, à tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
19h31 sur RMC, on est là, on est bien dans Rotten sans flamme, la dernière demi-heure de Rotten sans flamme en mode Ligue des Champions. On se rapproche, on est à une heure, un peu moins d'une heure et demie du match, de l'affiche de cette septième journée de Ligue des Champions. Ouais, c'est septième journée. Marseille, Liverpool. On est avec Christophe Dugarry, on est avec Benoît Costil, avec Benoît Boutron. Bientôt, on va voir les compositions d'équipe de ce Liverpool Marseille. Mais avant, on va parler de l'AS Monaco.
Dans un instant, Monaco, et dans un quart d'heure, le quiz.
C'est la dépression. Hein.
Un an de café saveur noisette, le temps des cerises à gagner. Magnifique cadeau. C'est livré directement chez vous pour vous inscrire. 32-16 touche 4. Vous envoyez quiz par SMS au 7-32-16. C'est la mi-temps en Ligue des Champions entre Galatasaray et l'Atlético de Madrid. Un partout entre les deux clubs. Ce match intéresse le Paris Saint-Germain parce qu'en cas de victoire, les Colchoneros pourraient passer devant Paris au classement de cette Ligue des Champions. L'autre match en cours oppose Karabakh à Francfort, un partout là aussi, pour l'instant à la mi-temps. Mais tout de suite, parlons donc des Monégasques.
Jérôme, je t'invite à écouter ça.
Par rapport à mon futur, je suis assez serein parce que, encore une fois, mes préparations de match pour l'équipe, toujours fait avec bienveillance par rapport au club, par rapport à la responsabilité qu'on a par rapport à nos supporters, d'essayer d'apporter du jeu. Les résultats ne suivent pas. Je peux regarder droit devant moi et me dire on fait le maximum pour le moment. La situation, elle est difficile. Certainement qu'on peut en discuter, mais j'ai pas envie de le faire. Les résultats reviendront. J'espère que ce sera avec moi parce que je pense que j'ai la force et la conviction que mes idées passeront à un moment dans ce club. Mon futur, c'est pas moi qui le décide. Je changerai pas une seule chose de ce que j'ai fait jusqu'à présent.
La VAR de Rotten sans flamme.
Avec un bilan pareil, c'est courageux de dire ça. 8 défaites en 18 matchs pour Sébastien Pocconi. Non, mais tu
mettre la dernière phrase.
Ah bah écoute, c'est ça.
Non mais je changerai pas, il a dit je ne changerai pas ce que j'ai,
si la je moindre chose de ce que j'ai.
Mais pourquoi changer?
Pourquoi changer l'équipe qui perd? Maxime Tillette vous rejoint, notre correspondant sur la Côte d'Azur. Il était présent au match hier.
Salut
à Madrid.
Salut l'équipe, bonsoir à tous. Et je confirme, ce sont réellement ses propos. Et ben voilà. Rien n'a été inventé.
Défaite 6-1 sur la pelouse du Real, un grand Mbappé qui a été auteur d'un doublé. C'est la plus large défaite de l'histoire du club en compétition européenne. Maxime, est-ce qu'elle va avoir des conséquences concrètes ou est-ce que tu penses que rien ne va changer à Monaco?
Bah, le match du Havre samedi va arriver vite et c'est sans doute ce qui va donner un petit peu d'air, peut-être encore un petit peu aux hommes en place. En tout cas, la pression est forcément de plus en plus forte sur les épaules de tout le monde. Forcément, celle de Pocognoli qui n'a pas encore perdu son groupe malgré la dynamique. Scouro, lui, persiste et signe que c'était le bon choix de nommer l'entraîneur belge à la place d'Adi Hütter au mois d'octobre. Bon, depuis, vous le disiez, 8 défaites en 18 matchs pour lui sur le banc monégasque. On estime malgré tout que pour beaucoup, il paye voilà, la préparation physique qui a été ratée dans les grandes largeurs cet été et les blessures en cascade le prouvent. Et puis pour ce qui est de Thiago Scouro qui est là depuis 2 ans et demi, bon bah jusqu'ici il a quand même rempli ses objectifs en allant chercher la Ligue des Champions 2 fois tout en équilibrant un peu les comptes. Donc même s'il est discret, le président Ribolovlev apprécie. Par contre, cet été le mercato, c'est un gros échec. Et d'ailleurs ça aussi, bah, Pocognoli en paye un peu le... Voilà, c'est pas le responsable et il se retrouve avec un groupe très diminué et pas forcément équilibré. Donc voilà. En revanche, après Pocognoli hier soir à Bernabeu, l'entraîneur belge est arrivé avec une équipe complètement malade, hein, 7 défaites sur les 8 dernières journées de Ligue 1, mais il a quand même voulu jouer comme si tout allait bien, avec beaucoup de prises de risques qui sont surtout transformées en beaucoup de cadeaux. On a vu Monaco tirer certes 20 fois au but, mais ça s'est fini quand même avec un score de tennis 6-1. Donc voilà, attention, parce que vu la densité d'équipe dans cette Ligue des Champions qui vont se battre pour une petite place en barrage, la différence de but elle risque de compter et ce résultat risque de faire mal.
Et Marseille, Monaco est 9e de Ligue 1, hein. Donc là aussi en Ligue 1 c'est compliqué pour Monaco, les défaites s'enchaînent. Est-ce qu'il faut tout changer, Jérôme? Est-ce que Thiago Scouro, le directeur général du club, doit s'en aller?
Déjà quand t'as des postes à haute responsabilité, que t'as des résultats honteux, parce que c'est honteux en fait, tu peux perdre à Madrid, tu peux perdre à Bernabeu, tu peux perdre à domicile contre des équipes moyennes de Ligue 1 voire mauvaises de Ligue 1, il y a pas de souci, mais perdre comme ils le font depuis pas mal de semaines.
Ils prennent beaucoup de raclées surtout.
Non mais c'est voilà, ça. Non mais c'est
zéro, contre tout le monde. Des 4, des 3, des 5, des 6.
Du gars, c'est exactement là-dessus que je veux en venir.
Dire à Lorient, ils en ont pris combien?
Quand tu es directeur du football, tu es directeur sportif. Mais heureusement que tu as ta part de responsabilité sur ce qui se passe dans le club, dans l'engagement des joueurs.
Est-ce qu'il est plus responsable que Pocognoli?
Mais ils sont responsables. Ils sont responsables. Pocognoli, je le mettais de côté, et Dugas me chambrait hier encore parce que je disais oui, mais bon, il vient d'arriver. À l'arrivée, quand j'entends parler, moi je l'aime beaucoup. Mais tu peux pas parler comme ça.
Il est très sûr de lui.
Tu prends 6 buts.
Il aime beaucoup aller boire un verre.
Non, mais certainement.
Au SAS Café, puis voilà.
Je pense qu'il aura allé au casino.
Non, mais
t'as raison. Je l'aime beaucoup et peut-être qu'il aura plus de temps libre prochainement. Mais, et on le fera. Mais tu peux pas garder ces gens-là à la tête de ce club. Non, mais c'est honteux. C'est honteux de prendre 6 buts comme ça, 6 défaites de suite en Ligue 1 et compter.
Et encore à 10, ils n'étaient pas très loin non plus. Hein.
Non,
ça aurait pu en prendre.
Exactement. Et de me dire. Et le pire, c'est
Maxime. Aussi après. T'as eu d'ailleurs après
qui s'est exprimé. D'ailleurs, et Kerrer. D'ailleurs, qui a dit qu'il faut qu'on se regarde dans une glace.
D'ailleurs, il a dit ça. Ouais, génial.
Mais le recrutement d'ailleurs, c'est typique. Le mec qui est à la tête du sportif, le directeur sportif Thiago Scuro, qui comprend rien à ce que c'est l'AS Monaco. Mais... parce que d'ailleurs, est un joueur qui est surcoté, parce qu'il a joué au Bayern Munich, du moins c'était le remplaçant du remplaçant au Bayern. Il était à Tottenham, excuse-moi, il n'a pas une carrière non plus internationale anglaise. Ouais, voilà, c'est un bon joueur, mais pas un extraterrestre.
Moi, j'entends, vous me faites tous le constat.
Tu le prends prêt à Monaco. Il est dans le confort, d'ailleurs. T'en fais pas qu'il en prenne 6, qu'il en prenne 5 en championnat, qu'il soit 9e, 15e. Il s'en fout.
Mais qu'est-ce qu'il faut faire?
À son prime, il vient jamais à Monaco aussi.
À son prime,
il y a quelques temps.
Benoît, qu'est-ce qu'il faut faire à Monaco, alors?
Bah, qu'est-ce qu'il faut faire? Je sais pas, mais c'est difficile de sauter tout le monde. Forcément, Thiago Scuro, pour moi, il a sa part de responsabilité aujourd'hui. Tu as déjà viré à 10 hauteurs. Les joueurs sont leur part de responsabilité aujourd'hui. Mais tu t'es trompé un peu sur le recrutement quand même. D'ailleurs, ça donne pas satisfaction. Fatih, malgré ses quelques buts, on en a vu trop peu. Et puis, j'ai envie de dire, mais vraiment, malheureusement, bah, aujourd'hui, il s'avère que le cas Paul Pogba et le retour qu'on attendait tous, j'irais même presque qu'on rêvait tous, qu'on pouvait que lui souhaiter du bien à lui et à Monaco par rapport à ça. Ben aujourd'hui, force est de constater que malheureusement, c'est un échec. Donc ils se sont gaufrés et ils ont toujours pas résolu le problème des gardiens de but non plus. Et ça fait un petit moment.
Et c'est un vrai problème quand même.
Ah ouais. Je suis un peu surpris aussi de Mika Biéretz. On voyait enfiler les buts l'année dernière et là, il n'y a plus rien.
Qui joue plus.
C'est assez étonnant. Il n'y a plus grand chose.
Lui, il a deux pieds, il a deux pelles à tarte, je te dis de suite. Par contre, il marque des buts, il s'est marqué des buts, mais alors par contre,
il a le niveau technique. Il est en maîtrise en 15 matchs de championnat quand même.
Oui, non, mais d'accord, mais il a le niveau technique, c'est compliqué quand
c'est
même.
Pas hein, faux,
c'est pas non plus. Bon, après.
Il faut vraiment lui mettre des bons ballons pour Guimarc.
Non, mais tu veux que je dise Monaco, le problème, c'est que. Ils sont dans la pire des situations. C'est-à-dire que ils sont tous désespérés parce que il y a rien de pire dans un club de football quand t'as pas de solution ou d'idée. C'est-à-dire que là ils sont tellement moisis tous qu'il y a aucune idée. C'est-à-dire que même le directeur sportif, personne n'a une idée, personne ne sait ce qu'il faut faire. Il y a rien de pire que quand une situation elle est compliquée, tu ne sais pas quoi faire, tu n'as aucune idée pour pouvoir rebondir, tu n'as aucune idée dans ta tête parce que t'es bidon et tu n'as aucune possibilité parce que le timing fait que aujourd'hui malheureusement tu peux pas faire grand chose. Donc c'est ils sont dans la pire des situations. Moi je rêverais qu'un jour il y ait un mec, ils viennent au micro ou à la télé, ils te disent voilà, moi je suis responsable, j'ai échoué. C'est pas parce que t'as échoué que t'es naze.
Voilà.
T'avais une mission, t'as échoué.
Tu laisses la place,
tu reconnais tes erreurs. À la rigueur, si t'es confirmé par ton board et par ton président
qui refuse ta démission,
tu restes. Il voilà, y a pas de problème, restes. Il a confiance en toi, tu restes. Mais tu proposes ta démission, mec. T'as un challenge, t'as un objectif, tu ne le remplis pas. Au revoir. Or, t'as pris tes décisions d'entraîneur pas une fois. Deux fois, t'as pris des joueurs, c'est toi qui as décidé, t'as eu tous les pleins pouvoirs, tu t'es trompé, ça arrive à tout le monde, il y a pas de problème. Peut-être que tu feras mieux ailleurs et que tu montreras que t'es un
meilleur. Il veut pas partir,
mais au bout d'un moment, quand est-ce qu'on a ses couronnes, quand est-ce qu'on est un homme, quand est-ce qu'on assume ce qu'on est, quand on assume ses choix. Au bout d'un moment, bien sûr qu'il veut pas partir parce que la gamelle elle est bonne, lui aussi il est bien au soleil. On parle des joueurs,
mais la gamelle.
Mais je rêverais qu'un jour il y en ait un qui les couronnes de dire voilà, je me suis raté, je m'en vais.
Est-ce que vraiment les gens, moi, qui sont propriétaires de ce club à Monaco, aujourd'hui prennent conscience que c'est honteux ce qui se passe. C'est honteux de la part des joueurs et des postes à haute responsabilité. D'accord? Parce que
si tu leur dis, il y a 3000 supporters au stade, ils le voient même pas, ils s'en fichent. Non, mais tout si monde s'en fiche, malheureusement.
Non, mais c'est pas. Non, du gars, moi j'y vais.
Remettez-moi du Julien et du Roten là-dedans.
J'y vais très souvent à Monaco. Ouais. Je peux te dire que, bien sûr, que et ils sont pas des millions, on est d'accord.
Ils étaient mais, 2500 hier à Madrid.
Mais ça fait de la peine à beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'amoureux de l'AS Monaco et qui vivent pas forcément à Monaco. Et que aujourd'hui,
Monaco,
et puis je vais te dire, il y a surtout l'amoureux numéro un, c'est le prince Albert. Mmh. Moi, j'ai une pensée.
Ah bah, Johan lui lance un appel sur le seigneur.
Non, mais parce que lui, il est au fond de tout là. Du moins, il constate des choses et il espère. Et toi, du gars, je finis là-dessus. Mais quand tu parles de prendre leur coronet, c'est de venir expliquer. Ils ont pas envie de le faire, sinon ils l'auraient fait déjà bien avant. Quand tu vois qu'il y a
une explication à donner, va-t'en, poste ta démission et tu verras si ton président l'accepte ou pas, mais au moins montre un peu que t'as des coronets.
Écoute, moi,
ça c'est utopique, hein. Moi, je crois vraiment qu'il va le faire.
À Monaco plus qu'ailleurs, et je finis là-dessus, à Monaco plus qu'ailleurs, les postes à haute responsabilité, que ça soit le président, que ça soit le directeur sportif et après l'entraîneur, ils doivent être respectés à 100% par les joueurs. Il n'y a pas un joueur qui doit se sentir au-dessus de ces gens-là. Le problème, Jérôme, c'est que leur attitude sur le terrain montre qu'ils en ont rien à carrer avec ces gens-là.
Tu sais ce que me dit Johan sur le numéro WhatsApp? Il me dit, moi j'ai une solution à moyen terme, allez me chercher Didier Deschamps. Remettez-moi de l'ordre dans ce club, un amoureux du club, et pourquoi pas Deschamps au sein de l'AS Monaco.
Bah, pourquoi pas.
Et Didier, il a
la fin de la Coupe du Monde, il est tranquille. Et en plus, c'est à côté de chez lui.
Faire, c'est parfait. Bah, voilà, la prépa sera déjà commencée depuis un moment.
Oui, mais bon, il peut pas forcément être coach, mais en tout cas, il peut incarner quelque chose à Monaco. Merci Maxime Tillier d'être venu.
Sélectionneur.
Avec plaisir.
Ah bon?
Rendez-vous lundi.
Ah, une annonce.
Ouais, il y a une annonce.
Une surprise en Roten sans flamme. Bon, on a hâte de vous raconter tout ça. Merci Maxime Tillier. Dans un instant, c'est le quiz de Roten sans flamme, tous contre Roten. Et la compo marseillaise qui va tomber ce soir, c'est Marseille-Liverpool. L'after live dès 20h. À tout de suite sur RMC.
RMC, 18h-20h. Roten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
19h48 sur RMC. On finit l'émission avec le quiz de Louis Gerbier. Mais avant le quiz, on est avec Christophe Dugarry, avec Benoît Costil et Benoît Boutron. On va avoir alerte compo.
Alerte composition d'équipe. Voilà. Le choc du soir. Marseille-Liverpool, Florent Germain.
Fais-nous rêver.
Avec Jean-Louis Tour à côté, qui donnera la compo de Liverpool. Effectivement, Jean-Louis est là. Il est tout beau. Tout frais avant ce gros match, roulis dans le but, c'est bien le 11 qu'on annonce. Si, il est impeccable, il est élégant et tout.
Élégant.
Mieux Julien Laurence en plus. Roulis dans le but, la défense, Murillo, Pavard, Balerdi et Medina. On verra le positionnement de Wea, qui est évidemment titulaire au milieu de terrain. Est-ce qu'il est à gauche, comme je le disais, pour ce rôle hybride et parfois une défense à 5, ou est-ce qu'il est à droite? On aura la confirmation tout à l'heure. Heubier et Kondogbia au milieu. Traoré est bien titulaire, comme on le disait. Et Greenwood et Guiri pour compléter l'attaque olympienne. Donc évidemment, on a revu ses plans du côté de Roberto De Zerbi quand Emerson a été blessé. Et c'est bien le 11 qui était pressenti et qu'on annonçait ce matin.
Et à Liverpool, l'info, c'est la titularisation de Salah. Pour la première fois depuis fin novembre, Arne Slot titularise. Donc Salah de retour de la Coupe d'Afrique des Nations. Il sera devant avec Ekitike dans l'axe, Wirtz à gauche. C'est un 4-3-3 avec McAllister, Gravendersch et Szoboszlai au milieu de terrain. Gomez pour pallier au forfait de Konaté. C'est Kerkez qui joue arrière-gauche avec Frimpong à droite, Van Dijk en capitaine et bien sûr Alisson dans les buts.
Merci Jean-Louis, merci Flo. 20h live en direct du Vélodrome. Ça va être magnifique avec le grand Manu Petit. On va se régaler. Ce sera juste après le quiz de Louis Gerbier.
RMC tous contre Roten.
Salut Louis.
Salut l'équipe.
Salut Louis.
Le cadeau est magnifique, c'est un an de café noisette, le temps des cerises. Vont s'affronter ce soir Arnold et Willy. Salut à vous deux.
Bonsoir.
Salut monsieur.
Et bonsoir. Salut Arnold.
Willy, t'es supporter de l'OM, tu veux jouer avec le reste du monde ou avec Jérôme?
Ben, je vais choisir Jérôme, il a pris deux défaites hier soir, on va choisir Jérôme.
Allez Arnold.
Non, c'est Willy.
Non, c'est Willy. Bon. Ah.
Qu'est-ce que tu me racontes,
Willy?
Allez, Willy avec Jérôme et donc Arnold avec le reste du monde. Vas-y Louis, c'est à toi.
Allez, on va faire un thème OM Liverpool.
Ah ouais.
Ah, c'est original.
Ouais. C'est original ou pas?
Ouais.
Allez, on commence avec une question flash. Si on additionne les Ligues des Champions gagnées par les deux clubs, ça donne combien?
Ah, 7. Pas mal.
Bravo.
6. Crac. Bravo Jérôme.
Bravo Jérôme. 7. 6 plus 1 pour ceux qui ne l'avaient pas.
6 pour qui?
Je sais plus, mais c'est qui. Question du gars.
Faites comme moi, soutenez la fondation Alzheimer.
J'oublie tout, cherche mon sens, je fais des détours. Ce soir j'oublie tout, et quand je repense à ce jour, c'est la vie, de la vie est courte.
Quel ancien coéquipier de Duga en bleu a joué dans les deux clubs?
Anelka.
Non. Si c'est.
Ah non. Oui, bonne réponse, Marcia, bravo.
Anelka, n'importe quoi.
Un partout. Bah on continue. Tiens, quel ancien coéquipier de Djibril, cette fois en bleu, a joué dans les deux clubs? Coéquipier de Djibril en bleu.
Chirou.
Bravo, Benoît. Magnifique.
2-1. Gros niveau du quiz. Hein.
Ouais.
Oh là là.
Oui, mais bon, là, je savais qu'il y avait des bons.
Ah ouais, bravo. 2-1 pour le reste
de encore là.
Arnaud Lewilly.
On est là.
Allez, oui. Contre quel club les Reds sont menés 3-0 en finale Ligue des Champions 2005?
Milan.
Bravo.
Qui a dit Milan?
Willy.
Ah, c'est Willy. Et Manu Petit, que tu n'as pas entendu. Ça fait deux partout, mais il est dingue ce quiz.
Question pour le patron.
Salut, c'est Jérôme Rotten.
Oui. RMC, la question pour le patron.
Tout le monde a le droit de répondre.
Tout le monde, bien sûr. Quel ancien coéquipier de Jérôme a joué dans les deux clubs?
Ah.
Ah bon?
Ah bon?
C'est celui-là.
Alors
oula.
Quel poste?
Coéquipier.
Plutôt devant.
Mais coéquipier
où? Morientes.
Bravo.
Crac. 3-2.
Eh.
Il est bon l'ostréiculteur. Ouais.
Hein. Bravo.
Ouais.
Bravo Benoît.
Bravo.
Multifonction.
3-2 pour le reste du monde.
Et il est bon quand il a fait pas
de. Il vous a jamais parlé de sa vibora au padel. Hein. Attention. Hein. Elle fait...
Et c'est vrai, au padel, c'est une machine, il paraît.
Ouais.
J'ai pété une vitre.
Voilà. Question d'Imeco.
Ah. Bravo messieurs, vous êtes des hommes, des grands hommes d'Europe.
Des grands hommes.
Pizzaiolo d'Imeco.
Ah ouais.
On cherche un vainqueur de la Ligue des Champions avec Liverpool en 2005, qui a aussi joué à l'OM. Stade Lavallois, Liverpool, RC Lens, Charlton, Portsmouth, Stade Rennais, Portsmouth, Birmingham.
Je l'ai, je peux pas.
Traoré.
Tout le monde, tout le monde.
Aloud Jara.
Non.
Traoré.
Jimmy Traoré.
Jimmy Traoré. Bah, je t'ai dit Traoré, ouais, j'ai pas entendu.
3-3.
Ça, bonne réponse de Jérôme Rotten.
Il est fou.
3-3, 1 minute 30.
Question flash. Quel joueur passé par les deux clubs, et pas cité encore, jouait pour l'OM lors du fameux Liverpool-OM avec la frappe de Valbuena?
Ah.
Zenden.
Oh là là là.
Oh là là. 4-3 pour le reste du monde. Ça va à une vitesse.
C'est une ouais. Période. Ça.
Ouais. C'est dingue.
C'est dingue, comme quand même.
Déjà, oh là là. Oh là là, dommage.
Souffle, Jérôme, souffle.
Statu quo, on touche à rien.
Classifié.
Alors là, c'est la faute à pas de chance.
C'est le con.
Ah bah là, c'est la faute à pas de chance. Et c'est la victoire du reste du monde. Et d'Arnold qui remporte ce magnifique cadeau. Bravo Benoît, bravo Duga, vous avez été énorme.
Une de plus, j'ai tout gagné aujourd'hui.
Comment on a terminé ?
Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte.
Bah, c'est la routaine, c'est le hasard.
Et toi, avec ton rictus, je te jure.
C'est le hasard, mais c'est fou.
C'est quoi ?
J'avais une super question. C'est frustrant.
Bon, allez, on continue.
C'est rageant.
Bravo Arnold.
Jouer sur RMC avec le temps des cerises. L'expérience d'un café noisette aux saveurs raffinées, aux arômes intenses et irrésistiblement gourmands. Rendez-vous sur letempsdescerises.fr.
Alors, demain, grande émission Rotten sans flamme. Jérôme va vous l'annoncer dans un instant, mais surtout dans quelques secondes. C'est l'afterlife en direct du Vélodrome avec Jean-Louis Tour, avec Florent Germain, avec Manu Petit. Grande soirée pour l'OM face à Liverpool, Jérôme.
C'est là que ça se passe sur RMC. Restez bien à l'écoute d'RMC. Et nous, on se retrouve demain dans Rotten sans flamme. Ça s'arrête jamais. Et on va débriefer ce formidable soirée et surtout ce match Marseille-Liverpool. Donc, on va se régaler. À demain, 18h. Grande émission. Bisous. À demain.
RMC jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme.
Retrouvez Rotten sans flamme en direct chaque jour dès 18h sur RMC.